Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de Cap Retraite dans cette conférence dédiée au parcours grand âge, comment trouver facilement une place en EHPAD. Je vais commencer par me présenter, puis après je vous expliquerai les objectifs de mon intervention. Donc Thomas Sabic, je suis consultant formateur pour Cap Retraite depuis plus de 5 ans maintenant. J'interviens aussi dans les instituts de formation en travail social auprès de directeurs d'EHPAD. Et c'est toujours pour moi très intéressant de pouvoir recueillir la parole des professionnels et surtout des usagers quand on parle d'entrée en EHPAD. Alors l'objectif, c'est véritablement de resituer l'entrée en EHPAD au sein du parcours résidentiel. Dans notre tradition, alors moi je viens du secteur social, je suis assistant social de formation initiale et après j'ai évolué, et on a une fâcheuse représentation. En fait, on a une fâcheuse tendance à se représenter visuellement les choses de la façon suivante. On voit en général l'usager au cœur, donc on va prendre un diaporama, un PowerPoint ou n'importe quel document, on va mettre l'usager au cœur et puis après, au-dessus ou autour, on va lister tous les intervenants qui peuvent croiser son parcours ou ses différents parcours. Et je pense que c'est une erreur, je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai opté pour une vision un peu plus dynamique qui permet de comprendre la notion d'articulation des parcours. Donc dans un premier temps, nous verrons la dite articulation des parcours. Puis j'ai extrait quelques chiffres et notamment les stratégies de négociation à l'occasion d'entrer en EHPAD qui devraient vous intéresser. Alors, ce que je vous disais, je voudrais dire en fait en introduction, c'est qu'on est vraiment à un moment où se conjugue une somme de transitions. La transition d'abord démographique, la génération de 68 a eu 66 ans cette année. Ils ont porté certaines réformes, ils ont surtout découvert ce que signifiait la dépendance qui n'était pas forcément prévue. Quand ils démontaient les pavés ou qu'ils organisaient des barricades ou qu'ils projetaient d'autres systèmes de solidarité ou d'autres modes d'organisation, en tous les cas, la dépendance n'avait pas été prévue et c'est vrai qu'elle devient non pas problématique, parce que je refuse de résumer les personnes à des problématiques, mais en tous les cas, la dépendance et la prise en charge de la dépendance sont véritablement des questions de société et aussi des questions de choix familiaux. Donc une transition de l'ordre de la démographie, une transition épidémiologique. On sait que les pathologies sont de plus en plus importantes, les pathologies chroniques. Et puis la dernière transition qui est perçue plutôt positivement, c'est la transition technologique, avec toute l'utilisation qu'on peut en faire au quotidien. L'articulation des parcours se situe vraiment dans ce contexte de transition. Et si on se décentre un peu de la fâcheuse habitude du travail social ou du secteur social que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut présenter la personne, la famille et l'entourage comme finalement ayant recours à un certain nombre d'acteurs ou d'intervenants. Le schéma que je vais vous présenter est un schéma que j'ai adapté avec une pilote Maya d'une publication de la CNSA de 2012. Et en fait, c'est un peu la nouvelle sémantique du parcours de santé et du parcours de vie des patients. Donc, la personne, la famille et l'entourage vont être confrontés à un certain nombre de problématiques et ils vont avoir besoin de recourir à des acteurs de santé. Après, des acteurs du social, bien sûr. Si l'autonomie avance, on risque d'avoir, et qu'elle décroît, on risque d'avoir affaire à la police pour différentes situations, mais surtout à la justice en ce qui concerne les mesures de protection juridique. Les acteurs du soutien à domicile et finalement la question du lieu de vie et du changement de lieu de vie vont se poser. Il en résulte finalement qu'on peut découper, et en tous les cas c'est comme ça que je conseille d'aborder les choses, c'est qu'on peut découper le parcours d'une personne selon un certain nombre de secteurs. Alors le parcours de la santé que j'ai résumé ici en étant un parcours de soins ne comprend pas les acteurs de la prévention. Donc finalement, j'étais en train de vous dire qu'on peut appréhender le parcours d'une personne selon certaines sphères, en sachant que cette sphère, la personne va pouvoir les fréquenter de façon soit alternative, soit de façon simultanée. Donc on a, j'étais en train de vous dire, la santé, ici représentée sous l'angle du parcours de soins, qui ne comprend pas la prévention pour des commodités de langage. Après, on va voir tout le parcours qui concerne l'accès aux droits. Et on sait que pour les familles, la principale problématique, c'est à la fois de gérer la dépendance de nos aînés. J'ai des parents qui sont pas dépendants, mais pour l'instant ça se passe bien, mais je vois combien c'est compliqué au quotidien. Et ce qui est surtout compliqué, c'est de pouvoir gérer à la fois les conséquences physiques et psychologiques de la dépendance, mais en même temps d'apprendre l'ensemble des dispositifs qui, somme toute, sont très compliqués en ce qui concerne l'accès aux droits. Hein, c'est un peu la contrepartie de notre système de protection sociale français, qui est très élaboré, mais très complexe. Le troisième parcours, ça va être le parcours résidentiel. Et c'est véritablement lorsque le soutien à domicile est plus possible, ou qu'il comporte trop de risques, ou qu'il est source de souffrance, on le verra tout à l'heure en ce qui concerne les aidants, que se pose la question de l'articulation avec l'entrée en EHPAD. Et si on veut être complet, on peut rajouter une quatrième sphère qui englobe les précédentes, qui est le parcours de vie. Voilà comment il est possible de se représenter l'articulation des personnes, l'articulation des parcours, et donc les étapes qu'elles vont devoir franchir du domicile, avec le soutien à domicile, jusqu'à l'entrée en EHPAD. Ça, c'est une façon de voir les choses. Je vous ai illustré ici le parcours de soins, qui, lui, est centré sur les acteurs de santé, donc avec l'urgence, puis après l'hospitalisation, et puis ce qui pose en général quelques problèmes, c'est les structures d'aval et puis le retour à la communauté, que ce soit le retour à domicile ou dans une autre, un lieu de vie, avec bien sûr le recours à la médecine de ville. Si on regarde un petit peu les chiffres en termes de GIR, une étude qui a été faite par la Direction de la Recherche, des Études et des Statistiques, donc c'est les chiffres actualisés et qui ont pris en compte les données disponibles au quatrième trimestre 2011, parce qu'on a toujours un temps de latence. Ce qu'on rend compte, c'est que les personnes qui bénéficient d'AGIR 1 et 2 sont majoritaires en établissement, alors que les personnes qui bénéficient d'AGIR 3 et 4 sont majoritaires à domicile. Ça illustre simplement le fait que l'entrée en EHPAD se situe entre le GIR 3 et le GIR 2. Et ce qui rend possible le maintien à domicile d'un GIR 2, c'est soit une configuration particulière liée à la dépendance, mais surtout la présence d'un aidant naturel qui va venir compléter le plan d'aide qui, c'est pas un secret, est nettement insuffisant. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les aidants vivent véritablement comme un fardeau le fait de pouvoir s'occuper d'un des proches. Et ce qui est surtout difficile pour les aidants, c'est que assez fréquemment, ils se retrouvent confrontés à un conflit de loyauté entre eux. Jusqu'où je peux aller pour retarder le maximum l'entrée en EHPAD, et certains franchissent la limite. Moi, j'ai vu des collègues, devoir se mettre en arrêt maladie parce que ils avaient été au-delà de leurs limites. Et donc, du coup, l'entrée en EHPAD, pour la famille en tous les cas, la question doit être réfléchie, elle doit être abordée, selon moi, à partir du moment où la personne est en GIR 3. Puisqu'on sait que c'est entre le GIR 3 et entre le GIR 2 que l'entrée en EHPAD s'effectue, d'un point de vue général. Alors, si on reprend notre question d'articulation des parcours, bah, finalement, on peut aboutir à la représentation suivante. On va avoir à gauche les différents GIR, puis les acteurs de santé. Et après, en GIR 5 et 6, la majorité des gens sont à domicile. En GIR 3 et 4, ils ne sont pas encore en EHPAD, même si certains vont rester à domicile et ils vont pouvoir fréquenter différents types de résidences. Et puis on arrive à la ventilation des GIR 1 et 2, où là, l'EHPAD est majoritaire. Le diagramme de Bouchon, comment il a été élaboré ? En fait, c'est un gériatre qui a illustré le fait que plus vous avancez en âge, plus votre récupération, elle est lente. Et finalement, ce qui explique l'aggravation d'un GIR à l'occasion d'une hospitalisation ou à l'occasion d'une pathologie, une grippe, un rhume mal soigné ou une chute, est représenté dans ce diagramme. Sur l'axe vertical, vous avez l'efficience, on pourrait dire la façon dont les organes vont fonctionner le mieux possible avec 0 en bas et 100% en haut. Sur l'axe horizontal, vous allez avoir l'âge de 20 ans à 120 ans. La première ligne, qui est la ligne verte, nous montre, illustre en fait le seuil de décompensation. C'est le seuil en dessous duquel il y a un risque vital pour l'individu. La ligne orange exprime en fait la décroissance des fonctions de l'ensemble des organes en fonction de l'âge. Et la ligne 2 va finalement illustrer ce qui arrive lorsqu'il y a un pépin de santé. Et on se rend compte qu'une grippe à 20 ans ne nous fait pas descendre en dessous du seuil de décompensation. Par contre, une grippe vers 80-90 ans va nous faire passer en dessous du seuil de décompensation. Et donc à ce moment-là, il y a un risque. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que simplement, ce qui se passe entre le GIR3 et le GIR2, c'est que l'état de santé fait que le risque de décompensation devient de plus en plus important. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde les parcours des personnes, vous pouvez avoir des personnes qui restent stables pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, mais qui, en une semaine, 10 jours, 15 jours, vont brutalement s'aggraver. Et c'est toute l'importance pour la famille d'avoir prévu ce qui va se passer après et d'avoir pu, dans la mesure du possible, aborder cela avec la personne âgée. J'arrive maintenant à la deuxième partie qui concerne l'entrée en EHPAD. Alors j'ai illustré en fait un sondage qui expliquait quels étaient les motifs d'entrée en établissement par les résidents et par leurs proches. Et le premier motif est le motif lié à l'état de santé et à l'âge. Et alors le premier enseignement de ce sondage, hein, c'est que c'est plus les proches des résidents que les résidents eux-mêmes qui font part de ce premier motif. Ça veut dire que c'est plus les proches qui sont inquiets, mais qui sont aussi plus objectifs sur la situation de la personne âgée et qui souhaitent une entrée en EHPAD à titre préventif. On arrive à soigner énormément de choses. On arrive à compenser le handicap, on arrive à compenser la dépendance. On n'arrive pas encore à l'annihiler véritablement. Et c'est vrai que je vous ai parlé de la génération de 68. La génération 68 pensait avoir des retraites complètes. La mienne, ceux qui ont environ 40 ans aujourd'hui, on sait que le système évolue, que la dépendance pour un certain nombre d'entre nous sera une réalité et qu'il convient donc de se préparer parce que de la même façon que le système de retraite évolue, de la même façon, les modes de vie vont évoluer. Et à un moment donné, je sais que pour moi, j'ai très forte chance que l'entrée en EHPAD, la question de l'entrée en EHPAD se pose. Pas maintenant, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais je commence déjà à en parler avec mes enfants parce que c'est important de dédramatiser ce genre de choses. Mes enfants sont ados, donc ça passe très bien. Le deuxième motif, c'est la solitude. Et là, bizarrement, les résidents à 16% le disent, mais les proches le disent à 39%. Donc à la fois, les proches ont un avis différent de la position de la personne âgée, en tous les cas de ce qui serait bon pour elle. Le troisième motif sur lequel ils se rejoignent, mais avec un écart qui est de plus en plus croissant, est celui-ci, car les proches ne pouvaient plus l'aider. Ce qui veut dire que dans ce cas de situation, l'entrée en EHPAD se fait véritablement, oui, par défaut, mais dans un but de préserver la personne âgée des risques qu'elle peut encourir. Quatrième point, on avait des éléments financiers. Une autre raison, 44% pour les résidents. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est un peu surprenant. On ne sait pas trop pourquoi. En tous les cas, il y a une raison qu'ils ne voulaient pas évoquer. Et puis, ne sait pas. Il y a 3% des résidents qui ne savent pas pourquoi ils sont rentrés. On peut penser que il y a peut-être des troubles cognitifs ou en tous les cas, ils n'arrivent pas à verbaliser le fait de pourquoi ils ont pu rentrer en EHPAD. Ça, c'était les facteurs déclenchants. Si on fait un flash maintenant sur la santé des aidants, Donc toujours, hein, on a toujours pris des références très officielles. Donc ça, c'est le dernier sondage qui a été fait sur le baromètre Orsip France Info Le Monde en 2015. Ce sondage comporte de nombreux enseignements. 48% des aidants rencontrent un problème de santé aggravé depuis le fait qu'ils sont des aidants naturels. J'intervenais il y a 3 mois dans le cadre d'une préparation à la retraite pour du personnel hospitalier et dans le cadre d'une formation professionnelle, et on avait plusieurs aidants. Et une dame a pu dire « Nous, depuis qu'on s'occupe de nos parents et à domicile, tous les enfants, on a de l'hypertension depuis qu'on fait ça. » Oui, parce que faut gérer les aides au quotidien, faut gérer les dispositifs d'action sociale, faut gérer tous les petits tracas, et puis il faut voir aussi son parent diminuer en autonomie au fur et à mesure. C'est pour ça que je pense que c'est important d'aborder ces choses-là et d'essayer de ne pas se retrouver dans un conflit de loyauté où, en fait, on risque de dire à son proche « Non, moi, je ne te mettrai jamais en EHPAD. » Je pense que il faut plutôt formuler les choses de la façon suivante. Tant que je pourrais t'aider à domicile, je le ferai. Mais si la question d'EHPAD doit se poser, quel type de résidence et dans quelle région tu voudrais aller ? Et plus on va pouvoir anticiper, plus on va pouvoir dédramatiser. Une autre statistique un peu percutante, sur certaines pathologies du type Parkinson, Alzheimer, un tiers des aidants décèdent avant l'aider. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit qu'en fait, finalement, les aidants visaient quelque chose et s'infligeaient, alors toute proportion gardée, se mettaient dans une situation qui finalement n'était pas très loin de la maltraitance, non pas pour l'aider, mais pour l'aidant. En ne s'accordant pas de repos, en ne pensant pas aux solutions d'hébergement temporaire en EHPAD, et en continuant d'encaisser jusqu'à ce que ce soit plus possible. Dans un tiers des cas, pour les pathologies très lourdes, c'est ce qui arrive. 83% des personnes sondées déclarent ressentir un fardeau et disent en fait que s'occuper de leur aider, c'est véritablement un poids pour eux. Et puis 75% déclarent être anxieux, notamment par rapport à l'avenir, avec notamment un certain nombre de troubles en ce qui concerne le sommeil. Quelques mots, on arrive bientôt à la fin, sur les critères de sélection. Donc là, en fait, on voit qu'il y a une grande disparité. Que, bien sûr, le premier critère, c'est la situation géographique. Et à la limite, c'est plus important pour les proches que pour le résident, puisque 70% des proches de résidents ont cité ce critère en première intention, alors que ça ne revenait qu'à 48% pour les résidents. Vient ensuite la bonne réputation, puis le délai d'attente, l'adaptation à l'état de santé et bizarrement le coût. Alors là, le coût pour les résidents, c'est moins important, mais c'est plus important pour les proches. Et je pense que ce sondage-là n'inclut pas avec aide sociale ou sans aide sociale, qui est aussi une question fondamentale et à laquelle, malheureusement, les différentes adaptations réglementaires qu'on a vues se mettre en œuvre n'ont pas encore répondu. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est le type de négociation qui se passe concrètement. Quelles sont les stratégies des acteurs lorsque l'entrée en EHPAD devient incontournable. Pour avoir été assistant social hospitalier en court séjour de gériatrie pendant 3 ans, puis en SSR de façon simultanée, je me retrouve totalement dans ce que je vais dans les constats qui ont été faits. Et finalement, il y a une étude qui date un peu, mais qui n'a pas vieilli du tout, et qui dresse 4 types de négociations lorsque l'entrée en EHPAD devient inéluctable. Le premier cas de figure, c'est le plus simple. Pour la famille, c'est le plus simple à gérer. Pour les professionnels, c'est le plus simple. Et puis, pour la personne âgée aussi, c'est ce qu'on appelle la situation de plein gré. Pardon. C'est la personne âgée qui va dire « Oui, je veux aller en EHPAD ». C'est une démarche volontaire où il y aura une négociation, mais qui ne durera pas très longtemps. Et ça, c'est le cas de figure le moins douloureux. Le second cas de figure, c'est lorsque la famille a recours à une négociation intrafamiliale. On va faire venir la personne, soit le conjoint, soit l'enfant qui a le plus de poids dans la famille, ou l'oncle ou la tante, qui va jouer une fonction de médiateur et qui va pouvoir expliquer l'intérêt de rentrer en EHPAD. Là déjà, le délai d'attente pour finalement rentrer en EHPAD augmente, surtout lorsque les personnes sont hospitalisées en court séjour ou en CSR, puisque le temps de la négociation n'est pas le temps médical. Le troisième cas de figure est lorsque la personne âgée, finalement, n'accepte pas l'avis de sa famille et que c'est l'intervention d'un tiers qui est jugé comme étant légitime, entendez par là un médecin, une infirmière, une assistante sociale, un psychologue, ou plusieurs entretiens, des fois sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, avec des allers-retours à l'hôpital, des chutes et des risques. Et c'est la stratégie dite de l'alliance, c'est-à-dire que la famille va devoir faire alliance avec le personnel de soins ou le personnel de santé pour pouvoir exposer la réalité de la situation avec les risques. Et finalement, la personne âgée va accepter. Et le dernier cas, vous vous en doutez, c'est lorsque cette admission et du registre de l'imposition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de choix possible. C'est papa, maman, cher oncle, chère tante, je pense que l'entrée en EHPAD pour vous est inéluctable et que vous allez rentrer en EHPAD. Et ça, c'est ce qu'on, en tant que professionnel, c'est ce qu'on souhaite le moins faire. C'est le cas de figure qu'on voit le moins, enfin qu'on voit régulièrement, mais qu'on souhaiterait le moins voir, puisque finalement, quand on prend une décision pour quelqu'un, quelque part, en fait, on lui enlève une part d'autonomie, donc on touche là quelque chose qui est du registre de l'humanité. Voilà comment on pouvait résumer, comment on peut présenter, comment du coup on peut se positionner, quelle attitude et quelle stratégie on peut adopter lorsqu'on est confronté à une entrée en EHPAD. Alors, si on revient sur l'articulation des parcours, si on a en tête ces quatre stratégies, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que du domicile à l'EHPAD, parfois, il y a la case hôpital qui est là. Et cette case-là, elle peut être douloureuse, elle peut être longue, mais finalement, le choix d'un EHPAD n'est pas tellement différent d'un choix d'un domicile, puisqu'on a vu que dans les critères, les trois premiers qui étaient identifiés étaient le critère de la localisation, le critère du coût et de la qualité des services. Et en tant que, je ne vais pas dire bon utilisateur du système de santé, mais en tous les cas, en tant que le connaissant très bien de l'intérieur, je peux vous dire que les délais d'attente entre les services de court séjour et les services de moyen séjour se chiffrent en années selon les territoires, en fonction du financement, bien sûr, aide sociale ou pas aide sociale, mais surtout en fonction de la négociation qui a pu y avoir lieu au sein de la famille. Et ce que je voudrais peut-être vous laisser comme message, c'est quand on sait ce qui va se passer, on peut s'y préparer et on peut commencer à anticiper. Moi, j'en ai déjà commencé à parler avec mes parents. Mon père ne veut pas du tout entendre un certain nombre de choses. Il refuse le fait même d'envisager cette possibilité. Mais je sais que c'est avec ma mère, lorsque l'occasion se représentera, si l'occasion se présente, je souhaite qu'elle n'arrive pas, mais si elle doit arriver, je sais que au sein de la famille, à qui je devrais m'adresser pour pouvoir avoir un accès. Et je sais quel mode de financement je dois déjà envisager. Puisque si l'accord de la personne ou si la décision au niveau de la famille est déjà prise, qu'il y a déjà un certain consensus, si je sais déjà quel est le budget, si c'est aide sociale, pas aide sociale, s'il y a recours à des produits d'épargne ou vente d'un bien pour financer l'EHPAD, si ces deux thématiques-là sont déjà pas résolues, mais qu'il y a au moins un consensus, alors la recherche, elle va très vite. Ce qui prend plus de temps, c'est que la famille soit d'accord, c'est que la personne accepte et qu'on ait pu identifier quel est le mode de financement. Et de cette façon-là, finalement, ce qu'on peut dire, et ce sera ma conclusion, c'est que en dehors du premier cas, où là, c'est vraiment de plein gré, finalement, c'est la famille et l'entourage qui ont un rôle prédominant à jouer au niveau de l'articulation des parcours et en particulier sur le parcours résidentiel dans sa dernière phase, qui concerne l'articulation entre le domicile et l'entrée en EHPAD. Et je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.
D'accord. Bonjour, je m'appelle Vincent Néter, je suis conseiller et manager pour la société Cap-Retraite. Je travaille depuis 7 ans pour Cap-Retraite et donc depuis 7 ans, j'accompagne les familles dans leur démarche. Alors, pour revenir, en attendant que la présentation soit prête, pour revenir sur les fondamentaux et pour revenir sur Cap-Retraite, qui sommes-nous ? Cap-Retraite est un organisme gratuit d'aide, de conseil et d'orientation en maison de retraite. Nous sommes un organisme gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes financés par les maisons de retraite pour nos prestations. Il faut le préciser. mais nous restons gratuits pour les familles, nous restons gratuits pour les professionnels médico-sociaux. Il est important de dire que la plupart de nos opérations, la plupart de notre activité au sein de Cap-Retraite est basée quand même sur du bénévolat, puisque nous traitons beaucoup d'aides sociales. Et au final, nous avons décidé ces dernières années de traiter des situations au titre de l'aide sociale, comme nous traitons des situations à titre payant, c'est-à-dire de pouvoir trouver des solutions malgré tout à l'aide sociale, avec des critères de base, qui sont finalement des critères de disponibilité, notamment, et qui peuvent permettre de résoudre pas mal de problèmes. Donc pour cela, nous allons mettre à jour une base de données en parallèle à notre base de données partenaire, qui nous permet d'avoir des solutions dans ce domaine. Alors, comme je l'ai dit, Cap-Retraite est un organisme gratuit, mais nous sommes rémunérés par nos maisons de retraite partenaires. Ce qui nous engage au final à connaître les établissements pour lesquels nous travaillons, c'est-à-dire 1500 établissements, foyers logements, résidents-services ou maisons de retraite médicalisées. Ça nous engage donc à les connaître. Donc nous travaillons aujourd'hui sur 4 critères qu'on ne verrait pas apparaître ici. Hein ? Non, pas encore. Nous travaillons sur 4 critères. Le premier critère, c'est un critère de visite. C'est-à-dire que nous sommes amenés à visiter nos maisons de retraite partenaires de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Mais nous les visitons et c'est important. Le deuxième critère, c'est un critère de qualification qui nous permet de connaître plus en détail les prestations fournies par une maison de retraite et pouvoir différencier peut-être une maison de retraite par rapport à une autre. Le troisième critère est un critère de relation dans le temps avec les maisons de retraite et les différents acteurs au sein d'une maison de retraite pour justement connaître l'évolution qu'il pourrait y avoir au sein d'une maison de retraite par rapport à l'équipe dirigeante notamment, les fluctuations de prise en charge, etc. Et le quatrième critère qui pour nous reste le critère de loin le plus important, c'est le retour des familles. C'est-à-dire qu'on se base énormément sur le retour des familles pour juger un établissement à un moment donné, pour pouvoir nous faire une idée, là aussi, de l'évolution de la prise en charge, des failles qu'il pourrait y avoir, des soucis de prise en charge, de l'écoute, de l'accueil qu'on pourrait avoir en maison de retraite. Donc ces critères-là, ce sont des critères pour lesquels nous investissons beaucoup et qui nous permettent aujourd'hui de justifier une rémunération auprès des maisons de retraite médicalisées ou d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc nous avons décidé. Alors, je vais peut-être vous proposer de poser des questions à la fin, si ça vous convient. On va essayer de mettre un micro à disposition. C'est très bien, merci. Nous avons décidé de mettre en place un outil qui est destiné à une recherche beaucoup plus rapide et au moins efficace en premier temps, et qui est destiné aux professionnels du secteur médico-social, donc médecins, assistantes sociales, tuteurs, etc., qui peuvent notamment accéder et traiter une situation lorsque la famille est dans le bureau et d'avoir des réponses assez rapidement. Donc cet outil, nous l'avons appelé pro.capretraite.fr, en raccourci chez nous pro.cap. Donc l'outil pro.capretraite.fr permet aujourd'hui d'amener des solutions rapides à des professionnels qui sont en recherche de maisons de retraite, c'est-à-dire de pouvoir être livrés beaucoup plus rapidement. Comment je fais pour avancer ? D'accord. Donc aujourd'hui, comment on peut trouver une maison de retraite en quelques clics ? Donc, ce site étant dédié aux professionnels, comme je viens l'indiquer. Ce sont des solutions sur mesure avec des critères de base que nous allons tout de suite voir, mais qui sont importants pour pouvoir arriver à une solution assez rapide. C'est un service rapide parce qu'au final, c'est un service qui peut être livré en quelques minutes, donc avec des solutions concrètes en quelques minutes. Et c'est une prestation gratuite. Donc on peut très bien faire des recherches pour différents résidents et on ne paye pas ni à l'accès à pro.capretraite.fr, ni on aura besoin de s'enregistrer pour devoir le faire. Alors, on va présenter une vidéo d'une démonstration du site pro.cap qui va montrer en quelques clics comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Voilà. Donc on va saisir notamment le secteur de recherche, la ville de recherche, avec un rayon qui permet d'élargir, s'il le faut, le secteur de recherche. On saisit le budget, on va saisir les délais, on va remplir les coordonnées de base concernant une personne âgée, notamment la pathologie, le type d'établissement qu'on va devoir rechercher. Et on va rentrer les coordonnées de la personne pour laquelle on est amené à rechercher un établissement. Voilà, on remplit aussi les coordonnées du contact. Donc premièrement le contact en général, puis les coordonnées de la personne concernée. Ce qui permet de laisser une trace et notamment après de reproduire cette recherche avec une trace déjà inscrite sur le formulaire. On peut décider de rester l'interlocuteur principal pour la recherche, on peut décider de déléguer ça à une famille et de mettre la famille en face pour être l'interlocuteur principal. Et là, on va obtenir des solutions d'hébergement. Donc avec une première sélection qui peut être validée, qui peut être retenue par rapport aux critères qui ont été demandés. Voilà. En fait, les critères que nous utilisons lorsqu'on fait une recherche de maison de retraite sont quatre critères. La pathologie, on estime que la pathologie est le point le plus important et qui nécessite des réponses en maison de retraite. Le critère géographique, tout à l'heure Thomas Sabic en a beaucoup parlé, les familles recherchent dans un secteur géographique précis, c'est un critère important et donc il est pris en compte dans notre sélection de recherche de maisons de retraite et dans l'algorithme qui est présenté sur Pro.cap. Puis on a le critère des délais, est-ce qu'on est en première recherche, est-ce que c'est pour plus tard, est-ce que c'est dans un délai raisonnable, donc pour savoir si les établissements recherchés peuvent accueillir une personne rapidement ou dans un délai demandé. Et on a le critère du budget, forcément aide sociale ou payant, mais oui, mais jusqu'à combien? On est sur Paris ou sur l'Île-de-France, donc ce ne sont pas forcément les mêmes tarifs qui sont pratiqués à Paris, en Île-de-France ou bien en province. Donc ce sont des éléments importants qui permettent en fait d'affiner la recherche. Alors on a décidé de publier le site Pro.cap et cet outil parce qu'on a remarqué en fait que le monde avance de manière plus à plus rapide et de plus en plus on essaie d'être de plus en plus autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour n'importe quel process, lorsqu'on fait des recherches sur Internet, on nous demande de remplir des formulaires et le monde attend d'avoir des réponses de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire on veut des solutions rapides et maintenant. On a remarqué notamment, et vous avez dû en entendre parler, l'État a décidé d'ouvrir une plateforme via trajectoire qui permet aujourd'hui, de manière là aussi rapide, d'avoir des solutions ou de sélectionner des établissements et de pouvoir leur envoyer un dossier médical ou un dossier d'admission de manière beaucoup plus rapide. Donc le monde avance de manière rapide et on a décidé de créer un outil qui permet de répondre à ces demandes-là. Et au final, on s'est aperçu qu'on est passé à côté d'autre chose. Et donc ça, c'était la deuxième partie. On a mis de côté l'approche humaine. C'est-à-dire qu'au final, lorsque je recherche une maison de retraite, je voudrais des solutions. Et on prend des critères de base, à nouveau, les critères géographiques, pathologie, délai et budget. Mais on passe à côté de plein de choses. On passe à côté de ce que voudrait la personne âgée, ce que voudrait la famille, de critères humains. On est intéressé par des établissements qui ont de bons retours. On est intéressé à pouvoir visiter un établissement et être rassuré lorsqu'on est accueilli dans un établissement. On est intéressé à avoir un retour des familles. On est intéressé à avoir des critères qui ne rentrent pas en compte dans la première sélection. Ça peut être des critères, des détails qui peuvent ne pas paraître importants comme l'accessibilité en transport en commun, comme une unité de vie qui sera plus petite, comme un établissement qui a un jardin, comme un établissement qui a une salle de kiné dédiée. Tout ça, ça ne va pas apparaître sur le site Repoint.cap. Mais en dehors de ça, on a le sentiment que les familles ont quand même besoin d'être écoutées. Parce qu'au final, même si on a un numéro de dossier, une personne âgée, ça ne reste pas un numéro de dossier. Les approches aujourd'hui sur la bientraitance et sur l'humanitude nous aiguillent sur le fait qu'on ne doit pas considérer une personne âgée comme un numéro de dossier, comme un numéro de chambre. Parce que c'est une personne qui a besoin, alors la famille a besoin d'être écoutée, et la personne âgée a des besoins, a des envies. Et ça doit être pris en compte. Et ça ne figure pas sur tous les outils automatiques qui existent sur Internet. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on ne peut pas en rester là, et qu'au final, on a besoin de prendre contact avec la personne qui remplit le formulaire pour voir si les réponses répondent aux attentes, et surtout pour voir si on a d'autres points à prendre en compte. Et donc, on voudrait pouvoir simplifier les situations sans issue, on voudrait pouvoir être à l'écoute des familles, on voudrait pouvoir allier la technologie à l'humain, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la technologie, et malheureusement, notre société, elle met de côté l'humain, et Cap Retraite n'a jamais voulu mettre de côté l'humain. Donc, pour nous, c'est le point essentiel, et nous avons donc décider de proposer un service qui est simple, mais qui va relier la technologie à l'humain. Donc aujourd'hui, je dois gérer une situation, je peux faire appel à la Cap Retraite, je profite donc d'un suivi personnalisé au niveau professionnel, donc en tant que professionnel et sur la situation concernée. Je transmets donc les infos à la résidence pour pouvoir faire le lien. J'ai l'esprit serein. Et on essaie de trouver des solutions avec ça. Donc nous, on voudrait pouvoir continuer à mettre à disposition des professionnels nos compétences et ne pas forcément toujours être remplacés par des robots, même si ces robots et ces solutions sont rapides et sont souvent efficaces. Il y a toujours cette écoute que les gens ont besoin d'avoir. C'est la raison pour laquelle on continue à avoir les gens au téléphone. On a l'impression que les gens continuent à nous appeler malgré tout. Ils remplissent des formulaires. Ces formulaires aboutissent à des solutions. Mais derrière, ils composent le numéro de Cap Retraite. Ils demandent à parler à un conseiller, justement pour essayer d'analyser les solutions qu'ils ont obtenues, que ce soit pour une famille qui a rempli un formulaire sur notre site, ou bien pour une assistante sociale ou un professionnel médico-social qui se dit « Bon, bah, malgré tout, il y a d'autres critères à prendre en compte. Et si moi, assistante sociale, je fais du social, je ne peux pas faire que de l'automatisme. Je fais du social, c'est dans mon titre de travail, c'est dans mon poste, dans ma fiche de poste. Ben nous, c'est un peu pareil. On ne va pas faire que de l'automatisme, et on va essayer de rester sur une position toujours humaine et toujours sociale. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention. Je pense qu'il y a des questions. On va essayer de faire passer un micro auprès du public.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, je voulais savoir comment vous organisez la remontée des commentaires des familles. Vous avez dit que c'est un des critères qu'on prend en compte. Est-ce que c'est un formulaire systématique à chaque admission ou c'est quelque chose qui se fait selon le souhait de la famille ?
C'est une très bonne question. On utilise les deux. C'est-à-dire que lorsqu'une famille visite une maison de retraite, on rappelle la famille pour comprendre et pour savoir comment ça s'est passé, est-ce que ça leur a plu, est-ce que ça convient à ce qu'ils ont recherché, et ces informations sont notées chez nous dans notre base de données. Lorsqu'une personne âgée rentre en maison de retraite, on garde un contact avec la famille qui soit par mail, donc un formulaire qualité par mail, soit par téléphone, soit des fois les deux, et on insiste et on demande aux familles de nous rappeler pour nous tenir au courant de l'expérience qu'ils ont eue. Toutes ces informations-là, donc à partir du moment où on a un formulaire, l'informulaire entre dans notre base de données, n'est pas publié parce qu'il doit être analysé. Et lorsque les familles reviennent vers nous avec des points améliorés sur des maisons de retraite, avec des satisfactions, avec des non-satisfactions, ces éléments sont traités. Ils sont traités par un pôle qualité, ils peuvent être traités par le pôle résidence, mais ils sont traités, ils sont analysés. Parce qu'il est évident que publier directement sur Internet, comme aujourd'hui Google aime à faire et à référencer des avis, c'est bien, mais il faut savoir analyser ces avis. C'est-à-dire que je vous donne un exemple d'une maison de retraite avec laquelle on travaille dans le 92, que je ne vais pas citer, pour laquelle on a eu des retours de résidents, de familles, donc de résidents vers une famille, comme quoi les repas n'étaient pas bons. Donc, soit ils ne sont vraiment pas bons, soit on a affaire à des personnes qui, des fois, ont des troubles cognitifs ou des oublis, de dire, ça nous est déjà arrivé d'avoir une famille qui nous dit, maman n'a pas mangé ce midi. Mais maman a des troubles cognitifs. Donc, il faut vraiment vérifier si elle a mangé ou elle n'a pas mangé à midi. Donc on est obligé d'analyser ces choses-là. Et elles sont analysées au cas par cas et elles sont après remontées à qui de droit. Donc si c'est aux maisons de retraite en général, et elles sont analysées. Donc lorsqu'on a des plaintes, elles sont remontées. On peut arrêter un accord de collaboration avec une maison de retraite à cause de plaintes, notamment. Mais les plaintes sont analysées avant. Voilà. Une autre question ?
Oui, bonjour. Je constate que la plateforme est très efficace, Critères, Tri-Croisés, mais justement, j'aimerais un petit peu connaître valeur ajoutée, en fait, sur cette plateforme. Comment ça se passe lors de l'accompagnement des familles, justement, lorsque vous avez fait une shortlist, en fait, des maisons qui semblent les plus adéquates ? Est-ce que vous accompagnez les familles ou pas ? Ou est-ce que vous attendez, en fait, que les familles elles-mêmes aient fait seules leur choix et qu'effectivement, elles se disent, non, on s'est trompé, ou finalement, il y a des remarques un peu négatives ? Et ma deuxième question concernait justement votre mode de fonctionnement, un peu le business model. A priori, vous êtes rémunéré par les maisons de retraite. Moi, je trouve que ça biaise un peu, justement, votre rôle peut-être de neutralité sur votre rôle de conseil, puisqu'en fait, les maisons de retraite vous rémunèrent. Et je voulais savoir comment elles vous rémunèrent. Est-ce que c'était un pourcentage sur la durée du séjour, sur comment ça se passe ? Parce que
effectivement,
on a du mal à imaginer. Soit vous travaillez avec toutes les maisons de retraite, et auquel cas, bon, effectivement, peut-être que c'est un peu plus neutre. Mais sinon, si effectivement ce sont des partenaires, si elles ont un manque de remplissage, je trouve que ça peut être biaisé. Voilà.
C'est une bonne question. Il y a à peu près 25 groupes de maisons de retraite en France. On travaille 90% des maisons de retraite privées. On travaille avec certaines maisons de retraite associatives. On travaille quelques maisons de retraite publiques. On est sollicité par ces établissements-là pour nos services. Je ne vais pas rentrer dans la nature précise du contrat, mais on est considéré comme des courtiers, au final. Là va se poser la question de l'objectivité. À partir du moment où je travaille avec un seul groupe de maisons de retraite, forcément, je ne suis pas objectif. Je travaille avec un seul groupe, peut-être avec deux, peut-être avec trois, je n'ai pas énormément de choix. Dans notre cas, on travaille 90% des maisons de retraite privées. À nouveau, le secteur public n'a pas vraiment besoin de nos services. Comme l'a présenté tout à l'heure Thomas, il l'a évoqué, ils ont souvent des temps d'attente qui montent à 6 mois, à 1 an. Il y a des départements qui annoncent des temps d'attente de 3 ans sur le secteur public. Et donc, au final, ils n'ont pas besoin de cap retraite pour leur amener une 301e personne en maison de retraite lorsqu'il y en a déjà 300 en attente. Voilà. Donc, nous sommes rémunérés par ces établissements-là. Il y a différents contrats sur lesquels je ne vais pas rentrer. Je vais pas rentrer en détail. On n'a pas un intérêt à favoriser une maison de retraite plus qu'une autre. On prend réellement en compte les critères qui nous sont demandés. À partir du moment où les critères demandés ont des solutions, les solutions sont présentées. Donc forcément, après, on affine ces solutions par rapport à d'autres critères, des sous-critères comme l'accessibilité en transport en commun, comme des grandes unités de vie ou des petites unités de vie, comme des prestations médicales ou paramédicales, comme le fait d'avoir un jardin ou avoir un parc, ou être proche d'un axe routier ou ne pas être proche d'un axe routier, etc. Il y a énormément de critères qui peuvent être pris en compte. Ça, c'est pour répondre à la deuxième question. La première question, on avance au rythme de la famille. C'est-à-dire que la famille peut très bien nous dire « Non, je fais une première recherche, merci pour les solutions que vous m'avez données, on reviendra vers vous si nous sommes intéressés. » Dans ce cas-là, on fera peut-être une relance par mail ou par téléphone dans quelques mois pour prendre des nouvelles de la personne âgée, parce qu'on a déjà eu un premier échange. D'autres personnes nous diront, si une recherche actuelle et immédiate, comment on avance. Alors comment on avance ? On valide les sélections qui ont été proposées. On fixe un rendez-vous dans une ou des maisons de retraite à visiter. Non, parce que ça serait impossible. Parce que en tant que conseiller, à plein temps, je gère par jour 60 contacts famille. Pas forcément de nouveaux contacts. 60 contacts famille, 60 dossiers en cours, si on présente ça comme un dossier. Donc je ne suis pas en mesure d'accompagner 60 familles en visite de maison de retraite par jour. C'est purement impossible. Surtout qu'au final, ma valeur ajoutée, elle est pratiquement inexistante lors de la visite. C'est là, à la maison de retraite, de faire ses preuves. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour appuyer ou pour être un commercial supplémentaire dans une maison de retraite. Je propose des solutions et j'ai vraiment besoin que la famille soit autonome sans avoir une influence peut-être de ma part et pour pouvoir laisser à la maison de retraite de faire ses preuves lors de l'accueil. Donc je suis vraiment intéressés à ce que la maison de retraite puisse avoir un maximum de liberté sans une autre intervention. Donc la famille visite, elle est contente, elle revient vers nous. Elle n'est pas contente, elle dit « Ok, j'ai vu, mais finalement, vous voyez quoi ? Par rapport à ce que j'ai vu, non, je recherche autre chose. Je voudrais une maison de retraite peut-être plus gaie, peut-être avec plus d'animation, peut-être forcément plus proche des transports en commun, peut-être plus cher parce qu'on a décidé de s'éloigner, mais je ne me vois pas faire 70 km et descendre jusqu'à Fontainebleau pour une maison de retraite à 300 euros moins cher que ce que j'avais à 20 km de chez moi. Donc venez, on regarde, on refait une recherche, on reconsidère la recherche, on repart sur une visite et dès que la solution est validée, elle est validée. Elle est validée. On envoie un dossier d'admission, médical, administratif, financier, visite de préadmission ou pas, et la personne rentre en maison de retraite.
Finalement, le verbatim des retours famille, qui peuvent être mécontents après une belle présentation commerciale de la maison de retraite, est-ce que vous les transmettez aux familles ou pas, justement, toutes ces données un peu subjectives, parce que ça, c'est très factuel, hein, le jardin, etc. Visite en maison de retraite, la première fois, c'est toujours parfait. Hein. C'est préparé, etc. Mais tapis après, rouge, c'est une fois qu'on est à l'intérieur que ça ne va plus du tout. Donc, est-ce que ça, vous capitalisez quand même sur tout ce retour de verbatim ou pas ? Ou est-ce que c'est trop confidentiel ? Enfin,
non,
c'est, ça que j'arrive pas
non, c'est pris en compte. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas citer de nom à nouveau, mais je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, une maison de retraite privée dans le 92 va coûter entre 3 000, même peut-être un peu plus, on va dire entre 3 et 4 000 euros par mois, pour être de manière générale. Les maisons de retraite associatives, et on travaille avec des maisons de retraite associatives dans le 92, vont coûter 300 euros de moins. C'est intéressant, c'est pas mal. 300 euros de moins, on est dans la tranche de 1 700-2 800 euros par mois. La différence, c'est qu'à 3 000 ou à 3 500, j'ai une maison qui est très belle, qui a de très bonnes prestations, qui est privée, et qui va soigner son cadre de vie. Alors que lorsque je rentre dans une maison de retraite associative, forcément à but non lucratif, les investissements ne sont pas forcément sur l'environnement, sur le cadre de vie. Ça veut dire qu'on va mettre l'accent sur la prise en charge médicale et humaine, voilà. Mais on ne va pas s'attendre à du 4 étoiles. Donc, forcément, lorsqu'une famille me contacte et me dit « Écoutez, j'ai un budget de 3 000 ou 3 200, j'ai un budget de 3 000 euros par mois, et dans mes critères de sélection, je voudrais quand même une belle maison de retraite. Soit je l'oriente vers une maison de retraite un peu plus chère parce que je n'ai pas forcément la solution qu'elle me demande, soit je l'oriente vers une maison de retraite associative. Là, je dis, regardez, il faut quand même s'attendre à voir un établissement qui n'est pas dans les mêmes attentes. C'est-à-dire que la prise en charge médicale humaine sera très bonne, mais après, au niveau esthétique, ça peut être plus standard. Donc, ces critères, alors là, c'est purement... subjectif, ces critères sont fournis. Évidemment, on les utilise pour d'autres critères, si c'est les repas, si c'est le contact humain ou pas. Il y a énormément de critères et ces critères, on va les utiliser. D'ailleurs, on ne va pas proposer de maison de retraite lorsqu'il y a des critères qui sont annoncés et qui sont en conflit avec ce que la famille ou ce que la maison de retraite propose. Ça veut dire que si finalement, moi j'ai eu le cas dernièrement d'une personne qui recherchait une maison de retraite où les repas sont très bons. Donc j'ai besoin de l'assurance que les repas sont bons. Où je vais les chercher ? Ben, auprès des retours des familles. Parce que dans le questionnaire, on a un retour sur la qualité des repas, premièrement. Mais deuxièmement, je me dois de connaître la maison de retraite. Donc forcément, à un moment, je l'ai visité, où j'ai un contact et j'ai cette information aussi. Et je suis capable de comparer l'information que j'ai avec l'information que j'ai en retour des familles. Par rapport à ça, je proposerai ou je ne proposerai pas la maison de retraite lorsque on me présente un critère, notamment par exemple de repas, puisque c'est l'exemple que j'ai montré. Donc oui, on l'utilise, mais ces informations ne sont pas publiées parce qu'elles ne sont pas analysées. Elles ne sont pas analysées jusqu'au bout. Parce que pour la plupart de ces critères, c'est purement subjectif. Et je ne peux pas mettre en ligne une information qui n'est pas vérifiée ou qui n'est pas vérifiable jusqu'au bout. Donc ils sont utilisés et... la famille décide si elle sélectionne ou si elle ne sélectionne pas cette maison de retraite. Une autre question ? Bon. Oui, je vous en prie. On va vous faire passer le micro.
Comment on peut orienter vers une maison de retraite associative ? Parce que vous savez, nous les Noirs, c'est une chose qui nous fait peur ici. Payer en maison de retraite à 3 000 ou 4 000 euros par mois, c'est dur pour nous. Avec le travail qu'on a fait ici, même pas moi, on ne gagne pas ça.
C'est évident.
Comment on peut orienter vers une maison associative et payer 300 euros ?
Alors, il faut faire la différence, si j'ai bien compris votre question, il faut faire la différence entre deux cas de figure. Une entrée à titre payant et une entrée au titre de l'aide sociale. L'aide sociale, aujourd'hui, n'est pratiquement pas possible en maison de retraite privée. Dans la plupart des maisons de retraite, ils n'ont aucun lien à l'aide sociale. Donc forcément, on s'oriente sur de l'associatif. Certains sont à 100% à l'aide sociale, d'autres sont en partie à l'aide sociale, ou le public. À notre niveau, on travaille avec pas mal de maisons de retraite associatives, mais on ne va pas travailler avec le public. Le public n'a pas besoin de nos services et on ne peut pas rentrer dans les détails qui ont été demandés tout à l'heure sur une recherche à l'aide sociale. Aujourd'hui, lorsque je cherche une place à l'aide sociale en région parisienne, j'ai pratiquement pas de place. Le temps d'attente moyen des maisons de retraite à l'aide sociale, il est de 6 mois. Ça ne veut pas dire que toutes ont 6 mois d'attente. Certaines en ont plus, certaines en ont moins. Mais pour la plupart, le secteur est quand même assez saturé. Et l'ouverture de maisons de retraite ne suit pas le rythme de vieillissement de la population âgée en région parisienne. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas rentrer dans ces détails, parce qu'au final, la famille ne trouvera pas sa solution. Si déjà j'arrive à trouver une place quelque part, avec un dossier médical qui est validé, c'est bien. Et aujourd'hui, lorsqu'on est dans l'urgence, une personne hospitalisée, et que le retour à domicile n'est pas envisageable ou il est envisageable à court terme, on a besoin de solutions rapides à l'aide sociale. Et l'aide sociale, vu qu'il n'y a pas énormément de place, donc le critère géographique, il est entendu et il essaye d'être respecté. Et le critère de prise en charge, je n'ai pas vraiment de visuel dessus. On a des retours qui sont officieux qu'on n'utilise pas vraiment parce que c'est purement des retours de famille, mais il n'y a pas d'analyse de la part de Cap Retraite sur ce type d'établissement. Ce n'est pas possible. On n'a pas de contrat de travail avec ces établissements-là. Si déjà on arrive à trouver une place quelque part, c'est bien. Et là, on demande à la famille d'être beaucoup plus vigilant sur les visites qu'ils vont effectuer et on va leur donner les bons critères, les bonnes questions à poser pour garantir un maximum de réponses sur l'établissement.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de conseillers Cap Retraite en France ? Est-ce que, je ne sais pas, combien d'entrées, combien de demandes de prise en charge, combien d'entrées réelles en établissement, par exemple, si vous avez d'autres chiffres.
Oui, alors je n'ai pas de chiffres précis, mais je vais vous donner une idée des chiffres. On est une quarantaine de conseillers, pour la plupart, à la très très grande majorité à mi-temps. Donc on a du mi-temps matin, du mi-temps après-midi. Un conseiller va gérer en moyenne entre 100 et 150 situations 100 à 150 nouvelles situations par mois. Le taux d'entrée que nous avons, alors c'est une question sur laquelle je vais peut-être rebondir, parce que le taux d'entrée que nous avons, il est grosso modo de 1 à 2 pour 10 situations. On va dire 2 entrées sur 10 situations traitées. Et donc là, ça peut répondre à une certaine interrogation, comment on retrouve notre compte. C'est-à-dire qu'on a 2 entrées sur 10 maximum qui vont aboutir dans nos maisons de retraite partenaires pour lesquelles nous allons être rémunérés. Donc, quelles sont les 8 autres entrées, les 8 autres situations ? Bon, bah, y a de l'aide sociale, on en a parlé. Les personnes ont trouvé de leur côté. La personne est malheureusement décédée. C'est du retour à domicile. C'est pas pour le moment. C'est une entrée en famille d'accueil. C'est des soins palliatifs, etc., etc. Mais à notre niveau, on ne peut pas connaître l'aboutissement de la situation lorsqu'on découvre le dossier pour la première fois. Et donc, en fait, on a le même engagement sur toutes les situations, peu importe l'aboutissement. Si ça rentre, ça rentre. Et si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Tant pis. Tant pis pour nous, mais au moins, notre contribution à la société, elle est toujours là. C'est-à-dire que l'accueil, l'accompagnement, les solutions qu'on nous demande, elles sont données dans tous les cas de figure. Après, si ça aboutit dans nos maisons de retraite partenaires, parce que c'est une situation à titre payant, en général, ça aboutit souvent parce que c'est notre métier, c'est notre corps de métier, et c'est là que nous sommes spécialisés. Et si ça aboutit pas, ça aboutit sur une autre conclusion. Voilà, on essaye de faire au mieux et on n'a pas la main sur tous les dossiers. Et malgré tout, on essaye de rester rentable à notre niveau et de donner un maximum d'éléments et d'outils à la société.
J'avais une question. Alors déjà, juste par rapport à l'aide sociale pour le privé, pour avoir travaillé dans le privé, on garde nos places sociales à l'aide sociale pour les personnes qui ont minimum 5 ans dans l'hébergement.
C'est vrai.
Donc ça, c'est quelque chose à dire, parce que c'est vrai que des fois, on a des familles qui viennent, qui disent « Ah bon, on ne peut pas bénéficier de l'aide sociale ?» Et je ne leur dis pas « C'est faux, Je leur dis, la seule chose, c'est que quelqu'un qui est depuis 5 ans dans l'établissement, je ne vais pas lui dire sous réserve qu'il n'a plus de ressources. Je ne vais pas lui dire bah, bonjour, au revoir. Bon. Il y a certaines maisons de retraite qui le font. Hein,
c'est vrai. D'accord.
Donc, je voulais juste donner cette petite chose. Et j'avais une question par rapport à votre site de Pro Cap Retraite. Parce que moi, je connais votre site Cap Retraite pour avoir été de l'autre côté. Donc, je réponds à la personne là, qui demandait pour les... Thomas. Les retours des familles, il y a une chose qui est claire et nette. Hein. Moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est qu'elle a accès à ce qu'on appelle au compte-rendu du Conseil de la vie sociale avec l'enquête de satisfaction. Hein. Donc, demandez, si tout d'un coup, vous n'avez pas le retour, les meilleurs retours, parce que c'est obligatoire vis-à-vis des ARS et vis-à-vis des conseils généraux, c'est de fournir l'enquête de satisfaction. Hein. Donc, déjà, les choses, elles sont claires et nettes. Et moi, je voulais juste revenir par rapport à Pro Cap Retraite. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont issues d'assistantes sociales, de SSR, d'hôpitaux ou de cliniques, qui sont effectivement dans l'urgence. Parce que tout d'un coup, on dit que ce n'est plus possible, la personne ne pourra pas rentrer chez elle. Donc, est-ce que, parce que votre site, il s'adresse pas seulement aux médecins traitants, il s'adresse à tous les professionnels. Aujourd'hui, c'est vrai, je vais être claire, toutes les maisons de retraite doivent faire un travail dans son réseau gérontologique auprès des assistantes sociales, des SSR et des hôpitaux. Et c'est comme ça, parce qu'elles nous connaissent. Elles se disent, tiens, effectivement, c'est intéressant, je connais l'établissement, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que vous apportez? Parce que beaucoup, ce sont des assistantes sociales issues du domaine public et du domaine associatif.
Ou du domaine privé aussi.
Ouais, mais beaucoup de demandes viennent du public, hein, quand même. Hein.
Exactement. J'en ai discuté hier avec un directeur de maison de retraite. J'ai visité une maison de retraite hier sur Paris. Et on en parlait justement. On va les citer, les assistantes sociales, forcément, sont démarchées, si on peut utiliser ce mot-là, par différentes maisons de retraite. Et... les maisons de retraite, comme vous l'avez dit, travaillent aussi sur un réseau géographique qui permet de savoir qu'est-ce qu'on va cibler. Et au final, l'assistante sociale a rencontré ou a reçu des plaquettes ou a visité 8, 10, 12, des fois 15 maisons de retraite. Et ils ont une situation. À qui on l'adresse? Ils ont eu 15 contacts, ils ont eu 10 visites. Ils ne savent pas à qui l'adresser. Et c'est la raison pour laquelle ils nous contactent. Parce que nous, on a une vue extérieure qui nous permet de prendre en compte uniquement les critères qu'ils nous donnent. Une assistante sociale, au départ, son rôle premier, il est plus dans le social et il est de connaître aussi les maisons de retraite qu'il y a autour de chez elle, mais elle n'a pas les outils et le temps pour faire le travail que nous faisons. Et donc, au final, lorsqu'elle a un réseau de 10 maisons de retraite autour de chez elle qui l'ont sollicité, qui ont dit « on est là, faites appel à nous », lorsqu'ils ont une personne à placer, à qui on l'envoie. Et c'est la raison pour laquelle ils contactent. Parce qu'on a ce regard qui est beaucoup plus large et on ne va pas l'orienter vers 10 maisons de retraite. Je veux dire, par rapport à ce que vous nous avez indiqué, c'est peut-être telle ou telle solution qu'il vous faudrait, justement, pour les critères ou peut-être critères qui ont été demandés.